dans cet épisode de Geekbécois, le podcast.
Les gens ont tendance à adopter Google+, pas comme un remplacement de Facebook complet, comme une espèce de hybride entre Facebook et Twitter.
Et Twitter, oui, exactement.
Ce qui s'en vient là, au mois d'août pour nous gamers assidus, attachez-vous.
C'est une suite du American McGee's Alice.
Ah, ça c'était spécial.
Et depuis ce temps-là, je me lave pas moi non plus, ça va bien.
Bonjour et bienvenue au nouveau podcast de Geekbécois. Je m'appelle Lynn Bou et je vais être votre animatrice pour ce podcast. Je suis avec une bonne partie de l'équipe de Geekbécois aujourd'hui. J'ai avec moi Jean-François.
Bonjour.
J'ai Alexandre.
Bonjour.
Et Laurent.
Bonjour.
Il y a Steve aussi.
Bonjour.
Et moi-même. Et ensemble, je crois qu'on va vous livrer une très bonne émission, assez remplie. On a du stock en masse, laissez-moi vous le dire. Alors, on commence cette émission dès maintenant. Bienvenue au podcast Geekbécois. Je vous présente un peu le podcast, notre idée de base, pourquoi en réalité qu'on a décidé de commencer à faire un podcast. En fait, on s'est décidé de faire un podcast pour pouvoir aller chercher une autre gamme de public, aller chercher un autre auditoire. Quelque chose que je trouve intéressant et bon, c'est moi qui ai un peu imposé mon idée à Coy, mais étant donné qu'il m'aime, bon, c'est ça. nous, notre idée, on veut faire un podcast par mois. On veut pouvoir présenter tout ce qui va sortir dans le mois suivant et nos impressions de ce qui s'est passé du mois courant. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va faire, c'est un peu ce qu'on va vous parler. On va vous parler du mois de juillet, mais aussi de tout ce qui s'en vient au mois d'août. Alors, je vais juste vous dire rapidement un peu de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Il y a évidemment, on ne peut pas passer à côté de parler de Google+, Apple avec le ITV et le Lion. Ensuite, on va parler évidemment des sorties de jeux. On va parler une petite critique de jeu de Alice Madness Return. On va parler de géocaching, qui est un hobby très intéressant. Ainsi que toutes les séries de télé qui sortent au mois d'août, septembre, tout ce qui s'en vient qui peut intéresser vous, petits geekbécois, amis, génération future, enfin. Et à la fin, ben, on vous réserve une petite surprise, quelque chose d'original là, qu'on avait le goût d'essayer, qu'on présente comme étant nos oranges et nos citrons du mois. Alors, on vous reparlera de ça un peu plus tard parce que faut que vous attendiez jusqu'à la fin avant de goûter à ces oranges et ces citrons. Alors, on va commencer tout de suite avec notre cher ami Laurent.
Bonjour.
Et évidemment, Laurent, faut commencer avec Google+, parce que c'est l'incontournable du mois. Là.
Oui, je pense que c'est impossible de ne pas être au courant de Google+, et c'est aussi impossible de probablement pas avoir reçu une invitation de quelqu'un qui a essayé de nous ajouter à un de ses cercles.
Si on n'en a pas reçu, là, on est sur une autre planète.
Oui, puis ça, c'est en faisant exclusion de ceux qui en ont reçu 200 à la minute quand il y a eu des bugs d'invitation. Mais on est rendu à un bon 20 millions passés d'utilisateurs sur Google+. Donc,
ça a été vite? Ça n'a pas de sens comment ça a été vite?
Ça a été vite, le plus vite de tous les réseaux sociaux. Il y avait des comparaisons avec Facebook. En un an, il y avait eu un certain nombre d'utilisateurs qu'en quelques semaines, Google avait ramassé. Donc, oui, là, c'est...
Même le créateur de Facebook est sur Google maintenant.
Oui, puis on voit qu'ils sont très nerveux chez Facebook parce que, de un, ils ont réagi en faisant du blocage de publicité, du blocage d'applications sur leur site. Ils ont fait du blocage de fonctions de l'application Facebook sur l'iPhone ou les autres appareils mobiles qu'on peut faire du filtrage par liste, qu'ils ont retiré. Avant l'arrivée de Google+, et qui ont remis tout de suite après l'arrivée de Google+, parce qu'ils se sont rendus compte que non, les gens, ils veulent ces fonctions-là.
Ouais, finalement, ouais, c'est ça.
Donc, ils ont peur. Ils ont peur, on les comprend.
Mais d'un sens, tu sais, moi, quand la nouvelle a sorti que le créateur de Facebook était rendu sur Google, tout le monde disait, mon Dieu, qu'il se fait là, tu sais, il n'y a pas rapport là. Mais dans le fond, moi, je trouve qu'au contraire, il fait bien d'être là, parce que... Tu sais, le meilleur moyen de savoir ce que la concurrence fait, c'est d'être intégré.
Ouais, ben il prouve qu'il est au courant parce qu'il était dans les premiers.
Ouais, c'est
puis ça. Il prouve qu'il est bon jeu parce qu'il ne boude pas publiquement le réseau des autres, même si sa présence sur Twitter est pratiquement inexistante.
Ben non, c'est ça. Non, ouais, il y a ça. Par exemple, celui-là, il l'a mis un peu de côté.
Oh, ouais.
Mais au niveau de la rapidité du lancement, au départ, Facebook était uniquement pour les étudiants, donc c'était vraiment très limité, alors que Google, c'est tout le monde dès le départ, donc ça fait une grosse différence.
Oui, tout à fait. Il fallait être in, il fallait faire partie des universités. Ouais. Les gens se recherchaient des adresses .edu au début pour avoir le droit d'embarquer sur Facebook.
Ouais.
C'était quand même, je dirais que c'était un peu l'équivalent des restrictions d'invitation au début de Google.
Ouais, exactement.
Sauf qu'on s'est quand même rendu à des millions d'utilisateurs en quelques jours. C'est juste phénoménal. Là. Ben, ce que je voulais un peu discuter aujourd'hui, c'était vous offrir quelques outils et trucs pour aider ceux qui décident de passer du côté de Google+. un des trucs intéressants, c'est de pouvoir importer ces photos de Facebook. Ça a été, il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, c'est le fun, Google+, mais moi, j'ai 300 photos. Ouais. Dans des albums, je recommence à zéro. Tu sais, les listes des amis, bon, je rajoute mes amis, puis veut, pas, en cliquant ajouter, on se commence avec tout le monde, puis on fait du ménage. Hein, ouais, y en a beaucoup qui profitent de l'occasion pour ça. Mais les photos, c'est comme très difficile à gérer quand on a déjà tous nos albums de gérer sur Facebook. Donc, il y a quelqu'un qui a développé une application web qui ne nécessite aucun téléchargement, qui s'appelle Start Google+.
Okay.
Donc, on va sur leur site, startgoogleplus.com. On se connecte en même temps sur notre profil Google+ et sur Facebook. Puis, le moteur du site fait le tour de toutes vos photos, puis il les télécharge une par une. Il crée les albums. Je l'ai essayé avec le mien. Bon, j'ai pas beaucoup de photos, mais ça a très bien fonctionné. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont eu des bugs. Là. Des fois, ça arrête en plein milieu d'un album. Ça se peut, là, c'est quand même un peu expérimental parce que ça utilise aucune fonctionnalité API que Google a donnée à des développeurs. Parce que pour l'instant, pas d'accès aux développeurs. C'est un produit fermé.
Ouais.
Mais il y a des petits vites qui ont quand même fait des passe-passe comme celle-là. Puis une autre, c'est que le même développeur a aussi fait un plugin pour Chrome qui permet d'intégrer Twitter, Facebook, Google+, en même temps, ensemble.
Wow.
Donc là, je l'ai dans mon browser. On va sur le site de Google+, puis on l'utilise comme normalement. Et le plugin va chercher tous vos filons de Facebook et de Twitter, puis il vient vous les intégrer dans votre cercle principal, dans votre stream principal de Google+. Puis on peut choisir de répondre exclusivement sur un des réseaux. Je reçois un tweet, je le retweet. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Ou on peut faire du post multiple. Je dis, bon, ben il fait chaud aujourd'hui, ça n'a pas d'allure. Hein, que c'est ça, cette affaire-là? Ben je le poste sur les trois en même temps, tous mes cercles, go.
Tout le monde le voit en même temps.
D'un seul shot. J'ai pas besoin de faire du copier-coller d'un réseau à l'autre ou choisir qu'est-ce que j'aurais le goût de dire.
Ouais, ça, c'est assez intelligent.
Oui, c'est popé, même si d'un autre côté, ça fait un peu la pollution des réseaux sociaux. Là, ça, c'est une affaire que j'ai remarqué là, ces derniers temps. Là. Je suis du monde sur Facebook, Twitter, puis Google+. Puis là, je revois la même affaire. Ouais. Il dit
ça,
quelque chose, puis 10 minutes après,
fatigant.
Là, j'ouvre Instagram. Ah oui, il y a sa photo de son barbecue. Puis après ça, je le vois sur Facebook. Ouais, c'était bon ton burger. Oui, c'est ça. Fait que, il y a comme une espèce présentement de on sait pas trop où s'en aller avec tout ça.
C'est parce que c'est plus ciblé. T'sais. Bon, Facebook, moi, j'ai plus de monde, d'amis proches, de famille.
Facebook, c'est familial.
C'est plus familial d'un sens. La photo que je vais mettre, je ne vais pas la mettre automatiquement dans Twitter parce que, bon, c'est pas les mêmes gens que je suis. Mais on dirait qu'avec ça, ben, ça généralise que, bon, tout le monde est mes amis, tout le monde est ma famille. Fait que, bon, la photo de mon chum qui est en train de faire du barbecue en boxeur, bon, il ne fait pas, là, mais je donne des exemples. Dans ce cas-là, ben, ça va être, tout le monde va le voir.
Mais c'est tellement facile. Ce qui est le fun de Google+, c'est que c'est tellement facile de choisir les destinataires.
Ouais. De
filtrer. Même si tout le monde a critiqué Google+, d'avoir arrivé avec cette idée révolutionnaire que Facebook fait depuis des années, les listes, ça marche mal.
Ouais.
Ça, la fonctionnalité est là, mais c'est pas évident. On oublie de cliquer, on le voit pas nécessairement qu'est-ce qui est envoyé à qui d'un seul coup d'œil, tandis qu'avec les cercles, l'interface visuelle, dans le fond,
c'est
l'intégration qui fonctionne bien. Ben, la photo du barbecue, famille, l'autre, les cercles étendus, tout ça. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens ont tendance à adopter Google+, pas comme un remplacement de Facebook complet, comme une espèce de hybride entre Facebook et Twitter.
Et Twitter, oui, exactement.
Là, ça fait quelques semaines que je suis là-dessus, j'ai déjà un gros paquet de gens que je ne connais absolument pas et qui me suivent sur Plus.
Ça. Mais tu ne les enlèves pas.
Non.
C'est ça.
Eux autres, ils m'ont mis dans un cercle externe.
Mais c'est un peu la différence entre Facebook, parce que si Facebook, tu avais du monde que tu ne connais pas, tu les enlèverais.
Ben c'est ça. Facebook, ce serait relié. Est-ce que je la connais? Oui, non. C'est mes amis? Oui, non. Tandis que Twitter, c'est le contraire. C'est mes amis me suivent, mais un gros paquet d'inconnus aussi. Puis moi, je suis des inconnus. Puis c'est le fun parce qu'on partage social.
C'est ça, Twitter, exact.
Mais là, plus, il y a comme un mélange des deux.
Ouais.
Je peux faire les deux. Je peux parler à mes
amis.
Je peux avoir
des amis.
Mais je peux envoyer des jokes aussi au public. Puis je lis mes amis, mais je peux aussi lire un paquet de monde par rapport que je fais dans un... Je mets un cercle, puis là, je rajoute plein de gens intéressants, comme j'ai fait sur Twitter depuis le début. Twitter, je le lis juste parce que j'ai des filons intéressants.
Ouais,
ça va être ça sur plus.
Ouais.
Fait qu'ils vont peut-être réussir avec le modèle de plus de mettre ensemble les réseaux sociaux qui sont tous spécialisés. Tu sais, comme LinkedIn. Pourquoi je suis sur LinkedIn? C'est juste pour avoir une présence professionnelle avec mes collègues, quelque chose de clean où ce que j'envoie pas de joke, mais que je peux relier ces personnes-là, dire « Ah, toi, tu connais quelque chose? » Puis ouais, exactement.
Ouais.
Mais là, si avec plus, je peux faire toute une branche de mon réseau social professionnel, puis qu'eux autres, ils verront jamais mes niaiseries, ben là, j'ai pas besoin d'un autre réseau.
Tu peux bien gérer, c'est ça.
Fait que LinkedIn, il devrait avoir peur présentement de voir l'arrivée de Google+, bien plus que Facebook. Parce que Facebook, ils ont le poids de la masse. Tout le monde est sur Facebook. Mais LinkedIn, c'est spécialisé. c'est les professionnels. Il n'y a personne qui va échanger autre chose que de l'information professionnelle sur LinkedIn. Ouais. Les autres, ils voient plus arriver, puis là, ah, on peut faire le professionnel aussi. Oups. Ça va moins bien.
C'est ça, moi, dans la vie, je suis coloriste, puis c'est sûr que toutes les filles avec qui je travaille ou les clients, ainsi de suite, sont, ils n'ont pas été au courant, ou en tout cas, quand je leur en parle de Google+, sont plus ou moins au courant de qu'il y a un nouveau réseau social qui vient d'embarquer sur le marché. Puis des fois, ça fait peur, tu sais, de savoir, de se dire, OK, on rembarque dans quelque chose de complètement nouveau, là. Tu sais, il faut que je réapprenne à utiliser un nouveau programme avec du nouveau monde. Il faut que je régère, c'est pas un mot, ça, mais que je recommence à gérer une nouvelle bande d'amis qu'au fond, ça va revenir au même au bout de la ligne, là. Dans, tu sais, dans, quand tout le monde va utiliser Google+, j'imagine que ça va revenir au même.
Oui, ça va être exactement comme présentement avec Facebook, où ce qu'on l'utilise pour s'envoyer des messages, qu'est-ce que tu fais à soir, appelle-moi, puis machin. Communication entre les personnes qui se connaissent.
Mais présentement, ça a l'air plus professionnel, un peu comme tu disais pour Twitter, que ça se ressemble, tu sais, d'un sens. Au début, Twitter, c'est ça, c'était beaucoup plus professionnel, techno, puis bon, t'étais nouveau genre, là, tu utilisais Twitter, puis là,
La même chose avec Gmail. Gmail a été lancé comme ça. Au départ, c'était vraiment quelque chose de des gens techno, et puis tout le monde, les autres gens avaient tous Hotmail, et puis petit à petit, tout le monde est venu à Gmail. Maintenant, plus personne n'a plus de compte sur Gmail.
Mais tout le monde a, ou au moins tout le monde a les deux. Fait que c'est ça, un moment donné, que ça va finir par faire Facebook, Google+, tout le monde va avoir les deux.
Ouais, alors, j'espère que ce sera pas comme ça, parce que ça m'énerve un peu de naviguer à travers 2, 3, puis 4 réseaux. Ouais. Ça serait le fun à un moment donné qu'on ait quelque chose d'un peu plus universel. On se parle avec ça, se connaît avec ça. C'est réglé, là.
Ouais.
C'est comme une adresse email, j'en ai pas besoin de 8, j'en ai une. J'ai plusieurs fournisseurs qui peuvent se compétitionner ensemble pour me donner mon email, mais j'en ai juste une.
Je vais en choisir
un. Mais là, si j'ai un compte Facebook, un compte Twitter, un compte, tu sais, ça s'empile. On va voir ce que ça va donner.
C'est Twitter qui va manger un coup là-dessus, parce que avec Google+, tu peux mettre beaucoup plus d'informations. Avec le Twitter, tu as un 144 caractères minimum. Avec Google+, dans le fond, tu peux mettre des vidéos, toute la kit. Fait que c'est Twitter qui va manger le plus le coup dans ça. De dire qu'on peut être sur les 3 réseaux sociaux d'une shot, d'après moi, il y en a qui vont peut-être lâcher Twitter aussi, mais à quel point, parce que Twitter est quand même très professionnel encore pour le moment.
On va voir l'évolution de ça.
C'est ça, je pense que ça va être... chaque mois, on va en reparler, je pense.
Les 20 millions qui sont sur Google+, présentement, c'est tous des adopteurs qui sont les early adopters, c'est nous autres. Fait que le grand public n'a pas encore commencé à jouer là-dedans.
C'est là qu'on va voir.
Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres?
Comment ils vont l'utiliser, là?
Ouais, exactement. Puis, je voulais aussi donner quelques autres petits trucs rapides pour améliorer notre usage de plus pour l'instant. Un truc que j'ai lu en quelque part qui est bien pratique, c'est qu'on peut créer un cercle brouillon. On l'appelle brouillon. Okay. Puis, quand vous préparez un post, là, vous voulez dire quelque chose, vous le mettez dans ce cercle-là en premier. Ça vous permet de le sauvegarder. Puis après ça, de venir le modifier. Puis après ça, changer, l'enlever de ce cercle-là, puis le publier à vos vrais cercles.
Ah, c'est bon, ça.
Au lieu de travailler, mettons, dans un autre éditeur de texte, puis écrire son texte, parce que présentement, il n'y a pas de sauvegarder. Là,
non, c'est ça.
Tu tapes, puis c'est Enter, ça sort.
Sinon, tu l'as perdu. Là,
oui, exactement, même si on peut modifier. Là.
Ouais.
Fait que ça, c'est pratique. La nouvelle barre noire, qu'on a remarqué il y a quelques semaines, avant l'arrivée de Google+, qui était, dans le fond, un précurseur, de tous les sites qui sont liés à Google+, on peut continuer de voir les notifications de ce qu'on reçoit. Ceux qui répondent, ceux qui réagissent à nos posts.
Même en étant sur Internet, n'importe quel site qui est relié à
Google. Oui, c'est ça. Comme, mettons, j'utilise Google Reader pour lire toutes mes RSS. Ben, de Google Reader, en haut, je vois mes notifications apparaître. Je peux cliquer dessus, y répondre sans quitter la page du site sur lequel je suis.
Ah, c'est bon.
Ouais, c'est super pratique.
Éventuellement, ça va être tous les sites de Google.
Oui, c'est ça.
Présentement, il y en a juste quelques-uns, mais ça va s'étendre.
Les principales, j'imagine.
Ça va être aussi très pratique. Contrairement à, mettons, Facebook, où il faut que je le laisse ouvert tout le temps, quelque part dans un tab, puis que je vais voir pour répondre, puis que je reviens. Là, on intègre ça plus comme si c'était une application qui fait partie du navigateur.
Ouais,
ça, c'est pratique.
C'est bon, ça.
Puis il y a aussi la fonction Huddle, qu'on ne connaît pas beaucoup.
Huddle?
Oui, Huddle, qui est la fonction permettant de faire des discussions de groupe.
OK.
Le but de ça, pour l'instant, c'est mobile seulement. Il ne l'a pas dans l'application web. Donc, si vous êtes sur le web, vous ne voyez même pas la fonction, ça n'existe pas. Mais avec les applications Android et iPhone, il y a la fonction Huddle qui permet de créer un groupe de discussion entre des amis. Mettons, je planifie quelque chose en fin de semaine, là, je vais inviter tous mes amis.
Ouais.
Bon, je crée un Huddle avec mes amis dedans. Puis là, je lance la conversation. Hey, en fin de semaine, on fait-tu quelque chose? Puis là, ça devient un filon de conversation de chat, comme de la messagerie instantanée, à travers nous tous, jusqu'à
dans
temps.
Groupe.
Oui, jusqu'à temps que ce groupe-là, on décide, on n'en parle plus, c'est fini, on peut l'effacer. C'est la même chose que sur Facebook, quand on envoie un message à plusieurs personnes. C'est exactement la même chose, mais c'est lié directement au mobile en temps réel, en instantané. Ben, oui, comme Facebook, parce que ça le fait. Sauf que ils ont pensé à ça aussi pour plus, donc ça va être pratique.
Mais il faut dire que si tu crées un lien avec tes amis sur ton mobile, il y a des bonnes chances aussi que tu aies leur numéro de téléphone puis tu leur envoies un message texte.
C'est vrai.
On jase. Je pose des questions.
Ben, c'est ça pour ma chronique sur Plus. J'ai bien hâte de voir dans les prochaines semaines qu'est-ce que ça va faire.
Oui, c'est ça. Puis je suis certaine que les prochains mois, on va finir par en reparler de Google Plus parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, il n'a pas fini d'avoir de la controverse, même autour.
Mais les gens sont très polarisés présentement. Ouais, c'est ça. Google Plus, c'est soit de la scrap ou c'est soit la meilleure chose au monde. Soit que Facebook va planter ou soit que Facebook va gagner.
C'est ça, exact. On dirait qu'il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Là. Au bout de la ligne, il faut qu'il l'ait là. Mais on ne l'aura pas tout de suite, je pense.
J'ai ma prévision personnelle. Moi, je pense que Google Plus va remporter, je dirais, la majorité du marché.
Okay.
Ça va devenir, peut-être pas le seul, mais ça va devenir, un peu comme on dit pour un Gmail, quelque chose, une référence.
Okay, ouais,
c'est présentement, là, ça, tout le monde a besoin d'un compte Facebook.
Ouais.
Ben, bientôt, ça va être tout le monde a besoin d'un compte Plus.
Ouais, c'est ça, exact.
D'après moi, on s'enligne vers ça.
C'est une très bonne prédiction. T'es comme notre Colette Provencher.
Ouais. Oui. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'ils ont annoncé que les jeux s'en viennent. Fait que là, je vais me faire spammer pour Farmville.
Ah, oui, hein. Oh, c'est ça.
Super.
Non, ça, c'est assez.
Mais si on peut les bloquer dès le début, je vais être bien content.
Ah oui, hein, mais on pourrait en parler longtemps, ça, des Farmville. Il y a des gens qu'il faut que j'efface, d'ailleurs. Attention. OK, alors, on va passer à un autre sujet. Merci beaucoup, Laurent. Super intéressant. On va aller avec Jean-François qui a beaucoup de choses à nous dire.
Ah oui?
Ouais, en tout cas. Sur ça, mais il voulait me parler de tout ce qui est Apple, bon, un peu du ITV.
Oui, ITV, c'est une petite boîte que l'on branche. En premier, c'est fait par la compagnie Elgato.
Okay.
Je suis en train de le tester pour vous, donc ça va être sur notre site prochainement.
D'ailleurs, je veux juste faire une parenthèse. Tout ce que Laurent a parlé, les applications qu'il a parlé, qu'on peut ajouter là, à Google+, tu avais parlé du...
Oui, on va mettre ça sur le site internet de
Geek Québécois. On va faire une nouvelle page vraiment pour le podcast. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez avoir toutes les informations d'un peu ce qu'on a parlé, juste pour vous donner un petit guide. Donc, si vous cherchez une information, on va mettre des vidéos, on va mettre des critiques de jeux, on va mettre des photos des jeux, ainsi de suite, juste pour vous donner un petit lien de plus pour vous retrouver là-dedans. Donc, Jean-François, de retour à toi.
C'est à moi.
Oui.
Oui, c'est ça. Dans le fond, cette petite boîte-là sert à brancher notre récepteur télé HD.
Oui.
Sur notre Mac. C'est fait principalement pour Apple, donc les Mac, iMac, MacBook, peu importe le modèle. C'est compatible avec PC, mais c'est spécialisé pour le Mac.
C'est supposé pour le Mac, oui, c'est ça.
Et je dois avertir tout de suite que ça ne s'applique pas au fil HDMI, c'est du fil en composante.
Okay.
Donc, ce n'est pas du full HD. Là,
c'est même pas 80, encore HD, on est à un tiers HD.
C'est ça. Puis dans le fond, il faut brancher.
Pas pensé de le faire, mais j'imagine qu'il y aura quelque chose de plus gros.
Peut-être éventuellement. Écoute, c'est peut-être un prototype.
Mais le but de l'appareil, c'est peut-être plus pour avoir une façon de convertir tous nos vieux.
C'est un DVR, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ouais.
Ah,
okay. Si j'avais continué.
Oui, c'est ça. On y va.
Non, dans le fond, ça sert. Puisqu'on peut brancher notre récepteur de câble là-dessus, ça nous permet d'enregistrer des émissions de télévision sur notre Mac. Sauf que c'est pas nécessairement adapté, on va dire, en fichier AVI ou MP4. C'est adapté en fichier du programme, donc ITV. Sauf que ITV peut encrypter l'émission que vous downloadez en format M4V.
Okay.
Donc, c'est supposé de fonctionner sur les iPads et les iPod, iPhone ici.
Ouais, c'est
sauf que lorsqu'on enregistre, on a différents choix de qualité d'image, petite, moyenne, grande et même format iPad. Et j'ai fait des tests et une heure donne 6 gigs à meilleure capacité.
C'est
beaucoup. Sauf que je vous dirais que ça vaut la peine.
Faut
pour un moindre prix par rapport à...
Pour un moindre prix, sauf que je vous dirais que ça ne se branche que sur un média, donc vous ne pouvez pas écouter la télé en même temps que sur l'ordinateur. Donc, j'essaie de trouver des adapteurs, faire des adaptateurs.
Dans le fond, ça monopolise deux de tes appareils. et l'ordinateur et la télé.
Fait que dans le fond, c'est spécialement pour ceux qui n'ont pas de télévision. Là. C'est comme si ceux qui servent de leur ordinateur comme écran des télévisions normales.
Ouais.
C'est ça. Fait que on pourrait, mettons, laisser ça brancher toute la journée, enregistrer un paquet d'émissions. Puis là, le soir, quand on arrive, on visionne ce qui nous a intéressé de la journée.
C'est ça.
En plus, tu peux programmer, d'après ce que j'ai compris.
Oui. Ça, lorsqu'on achète la bidule, on peut dire ça comme ça, ça vient avec, je vais te dire, le TV Guide. Okay. Pour un an, parce qu'il faut payer pour le TV Guide, que ça vient avec un an. Je pense que c'est 25$ pour l'année. On s'entend que si on l'a déjà avec le câble, que les seuls mauvais côtés que j'ai trouvés, c'est que puisque c'est enregistré selon le terminal, c'est que si on change de poste, ça va enregistrer le changement de poste. J'ai jamais eu d'enregistreur numérique HD à la maison pour voir la différence si ça enregistrait le changement de poste. Là. Donc, ça l'enregistre ce qu'il y a à l'écran.
Ben, je peux te confirmer que ça ne l'enregistre pas avec un enregistreur HD.
OK. Donc, tu changes de poste et tu ne vois pas
L'enregistrement reste sur la zone que tu as sélectionnée, l'émission que tu as sélectionnée. Tu peux changer de poste, tu peux écouter autre chose.
Fait, tu ne vois pas le poste affichant en bas. Là.
Non,
c'est ça. Dans le fond, nous, ça l'enregistre vraiment ce que tu vois à l'écran.
Il faut vraiment que tu touches à rien. Il faut que tu partes ton enregistrement, tu touches à rien, tu t'éloignes tranquillement. Tu pars à courir.
C'est vraiment quand tu n'es pas à la maison, quoi, en fait.
Oui,
mais
c'est ça.
Qu'est-ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est que le terminal numérique doit toujours rester ouvert et l'ordinateur aussi. Parce que vous pouvez programmer à l'avance ce que vous voulez enregistrer, sauf que l'ordinateur doit rester ouvert.
C'est ça, il ne s'allumera pas au moment que l'émission commence. Là.
Non, c'est l'avantage des enregistreurs numériques actuels.
C'est ça.
Tu peux le laisser. Je ne sais pas si. Tu peux le fermer, il va s'ouvrir tout seul pour une programmation, mais
il est pas mal toujours
la télé peut rester fermée, tandis que l'ordinateur doit rester ouvert.
C'est un des moins.
Donc, c'est ça, je suis en train de tester présentement. Puis que,
côté prix,
c'est 200$.
Quand même, hein?
C'est 200$. Fait que quelqu'un qui n'a pas la télé normale, c'est quand même abordable parce que l'enregistreur numérique standard, c'est 500$.
Oui, c'est cher.
Donc, sauf que j'en ai jamais eu, donc je ne peux pas savoir. C'est qu'une fois que tu as enregistré, si tu peux mettre tes émissions sur clé USB et les transférer ailleurs, je ne sais pas si ça se fait.
C'est des bonnes questions, ça fait pas longtemps qu'on l'a.
Tandis qu'avec iTV HD, c'est directement dans ton ordinateur et tu peux le transférer en format M4V.
Pour l'avoir portable.
Portable, oui, c'est ça. Ouais. Donc, si vous voulez le transférer, transformer un autre média, peu importe, en AVI, là, il faudrait peut-être un programme adapté pour ça, mais iTV ne le fait pas.
Oui,
c'est ça. Mais je crois que vous allez sûrement perdre la qualité d'image en ce moment-là.
Oui, c'est sûr.
C'est ça.
À ce moment-là.
C'est pas mal tout pour ça. Donc, le restant va suivre au courant du mois pour mon évaluation complète.
Parfait. Mais c'est ça, tu vas nous faire une critique au complet, dans le fond, sur ça. Très intéressant.
Merci, Jean-François!
Bon, Steve qui crie en arrière. Il n'y a pas de micro. On n'y en a pas donné. Il n'y a pas le droit. Alors, tu voulais aussi nous parler de Lyon?
Oui, bien, Lyon est sorti...
Ça a fait une grosse controverse pour toi. En tout cas, ça a été comme ça a tourné autour de toi, là, ça.
Okay.
J'ai ça vu, aussi, les gens sont polarisés.
Oui, c'est ça. Là, on va avoir du fun.
Non, parce que principalement...
J'ai vu des crises,
Principalement, je suis un adepte de Apple depuis seulement qu'un an.
Okay.
Donc, je ne connais pas l'historique des mises à niveau qu'il y a eu. Donc, moi, je ne savais pas que Léopard et Snow Leopard n'étaient que des mises à niveau. Je les suis aujourd'hui.
C'est à peu près la même chose.
Ça n'était pas des grosses différences, comme on va dire, Windows XP à Windows 7, qui avait quand même un grand changement majeur. Là.
Il y avait aussi Vista entre les deux.
Vista, oui, pardon. Vista, je ne l'ai jamais vu. C'est comme s'il n'avait jamais existé pour moi.
Il était boudé, là, oui. Ouais, mais c'est pas Windows
ça tombe bien si je ne l'ai pas connu.
Donc,
non, c'est ça. Fait que moi, quand j'ai vu que c'était qu'une mise à jour payante, dans le fond, de 30$, c'est quand même moins cher que ce que les autres étaient, c'est sûr. Sauf que tout ce qu'il y a présentement comme mise à jour est faisable.
Ouais,
faisable présentement sans cette mise à jour-là. Fait que moi, dans le fond, un changement majeur qui est apporté, c'est qu'on peut mettre nos applications sur notre écran, sauf que nos applications, on peut les mettre sur notre écran déjà si on le veut. Fait qu'il y a plein, je connais pas les 250 modifications qu'il y a eu par cœur, sauf que à ce que j'ai pu lire sur leur site web, moi, le 30$, je vais le garder dans mes poches.
Oui, c'est ça.
Ben, moi, des mises à jour, habituellement, c'est gratuit, tu sais.
C'est ça.
Ben, c'est un 30$. Je crois, là. Donc,
oui, c'est ça.
Tu sais, fait que moi, je crois vraiment que ça va être les early adapters ou vraiment les gros fans d'Apple. Tu sais, je suis un fan d'Apple, mais je ne crois pas que je suis religieusement à genoux devant Steve Jobs. Ouais. Ouais. Donc, mon 30$, je vais le garder.
Ouais. Une chose qu'ils font, par exemple, de différent, c'est que au lieu de faire un gros système d'exploitation majeur à toutes les X années, disons aux 4 ans, il y en a un paquet de plus petits qui sont tous aussi un peu moins chers.
Ouais.
Fait que c'est comme si progressivement, à coût de 30$, je suis en train de monter au prochain gros operating system qui va être là dans 4 ans, que j'aurais pu acheter pour 100$, mettons.
Mais est-ce qu'au bout de la ligne, tu penses que quand le gros va sortir, tu vas payer moins cher parce que tu as acheté les autres?
Ben, la plupart du temps, quand on suit les upgrades, il est toujours au plus bas prix, le prochain. Okay. On repart pas à zéro. T'sais, moi, j'ai eu Léopard, passé de Snow, ils m'ont chargé 10$ parce que ça faisait X jours que je l'avais. Puis après ça, il y en a eu qui l'ont eu gratuit, Lyon, puis les autres, c'est 30. Fait que
ça, parce
c'est
quand que même serait, des petits
incréments.
Oui, c'est ça.
En tout cas, je ne crois pas qu'on va avoir droit à une mise à jour l'an prochain. Là.
Ouais.
Donc, d'ici ce temps-là, si les 250 modifications qu'il y a eu sont potables, peut-être que j'envisagerai ça à plus long terme.
Aller chercher,
mais pour le moment, moi, cet argent-là...
Non, on le garde dans les poches.
Mais dans les 250, il y en a trois, moi, que je trouve quand même intéressantes qui pourraient dire presque au point de justifier mon 30$.
OK.
Il y a AirDrop qui permet d'échanger des fichiers entre tous les appareils qui ont Lyon, qui sont à proximité l'un de l'autre, sans utiliser le logiciel externe.
Ça existe sur iPhone, ça, déjà, non?
Non, je pense. Okay. Ben, avec iPhone, il y a des applications qui permettent d'offrir sur Wi-Fi. L'autre, il faut qu'il aille sur ton Wi-Fi puis ramasse le fichier. Avec Lyon, le AirDrop, c'est directement intégré. Tu l'ouvres, je l'envoie à toi. Chlou, le fichier est rendu à l'autre. C'est fini, c'est réglé. On n'a pas eu besoin de faire d'échange.
Wow,
c'est très pratique pour les étudiants.
Parce
que ceux qui font des travaux d'équipe en étudiant, un des gros problèmes, c'est l'échange de fichiers. Là, je le mets sur ma clé USB, je te l'envoie. Toi, tu me l'envoies par email. Là, je l'ai reçu de l'autre. Toi, tu l'as pas, toi. Puis avec ça, zoup, c'est réglé.
Faut que ça passe par le Wi-Fi ou c'est
ça passe
Bluetooth.
Par le Wi-Fi. Donc, aussitôt que toutes les machines se voient par le Wi-Fi, le transfert commence, puis on peut s'échanger des choses.
Bien, ça se fait actuellement, sauf que c'est un petit peu de programmation dans le système. Là.
Oui, il faut aller bidouiller vraiment. Oui. Ça, c'est l'interface que tout le monde peut utiliser parce que c'est facile. Tu sais, le It Just Work d'Apple, ben, ça, c'en est un.
Ça, oui.
L'autre chose, il y a maintenant FaceTime.
Oui.
Parce que FaceTime, avant, c'était un projet bêta qu'on a eu seulement pendant une certaine période. Après ça, c'est devenu une application téléchargeable pour, je ne me rappelle plus combien, 10$, 15$. Ben, maintenant, elle fait partie de Lyon. Donc là, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont Lyon vont aussi avoir FaceTime eux aussi. Puis là, ils peuvent commencer à faire des vidéos chat avec nous.
Bon.
Puis pour l'avoir essayé plusieurs fois, c'est génial. Je trouve ça vraiment bien. Oui, c'est pas mieux que toutes les autres. Mm. C'est la même chose que Skype, c'est la même chose que toutes les autres applications de vidéoconférence, mais ça marche juste trop bien.
Ouais, c'est ça.
Dire, on m'appelle, mon téléphone, ça sonne, oui, allô, vidéo, puis that's it, c'est réglé, on est en vidéo.
C'est fou que ce soit mobile. T'sais, moi, c'est sûr que, tu sais, je sais, on l'a fait par Skype, on était à Québec, on a appelé, bon, chez mes parents, parler à ma fille, puis on l'a fait, puis bon, ça va, mais à comparer à la qualité de FaceTime, de l'image de FaceTime, la rapidité de bon, tu sais, le vidéo, il est clair, il est net, le son est bon, c'est incroyable. Moi, ça m'a vraiment
En
Wi-Fi,
parce qu'on
Wi-Fi.
On l'a essayé sur 3G, là, avec la petite passe-passe, puis ouf, ça plonge rapidement.
Non, c'est ça. On doit perdre beaucoup, là.
Dans la bande passante sur ton compte aussi.
Hein?
Dans la bande passante sur ton compte aussi.
Oui, ben ça va, j'ai 6 gigs, fait que je suis correct.
Puis t'avais deux autres...
J'en avais un autre truc que j'aime beaucoup de Lyon qui ont apporté, c'est qu'avant, pour encrypter les données du disque dur, on utilisait 5Vault, qui était l'encryption de mon compte. Donc, les données de mon compte sont encryptées au niveau juste de ma section, mais le reste du disque dur est intouché. Maintenant, l'encryption, c'est global. La machine au complet est encryptée d'un bout à l'autre, ce qui rend, d'un, la sécurité meilleure, mais les performances aussi sont meilleures parce que le système n'a plus besoin de passer pour essayer de récupérer l'espace pas utilisé, transférer les choses d'un compte à l'autre. OK, je grossis ton firewall, je rapetisse l'autre.
Ouais, c'est
maintenant,
ça.
C'est
tout est fait.
Global. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, ça aussi, c'est un plus, surtout pour des mobiles, des appareils qu'on peut se faire voler. Moi, j'aime ça savoir que mes données sont protégées. Présentement, je suis tout encrypté avec FireVault, mais de savoir que le disque au complet serait, puis que ce serait plus rapide aussi. À chaque fois que je fais un log-off, là, ça prend 2 minutes de faire bon, ça aussi, c'est le fun.
Mais est-ce que d'un sens, 30$ pour 250 nouvelles choses, updates, pour 3 vraiment qui sont intéressantes? On pourrait s'assiner longtemps, on pourrait jaser longtemps. C'est ça le plaisir.
C'est comme si on achetait les service packs de Windows.
Ouais.
C'est ça l'idée. Sauf que Windows, quand on l'achète à chaque upgrade, ben c'est le prix total. C'est ça. Tandis que là, si j'achète juste les petits upgrades, ben, à coût de 30$, ouais, ça me coûtera ça. Jamais. Je m'en sors pour 30$, puis l'année passée,
c'est quand même bien. Ouais,
un autre 10-20, puis l'année prochaine, peut-être quoi, 20 encore, je sais pas.
Ouais, ouais.
J'ai pas besoin de racheter une licence de Windows 7 à
85. On doit préciser que c'est 30$ avec ou sans taxes? Parce que si on le paye avec des cartes prépayées ou cartes de crédit, est-ce que les taxes sont incluses dans le 30$?
Sûrement, là, c'est un produit. Fait que je
sais pas, ouais, c'est ça.
Ça va être taxé, ouais.
Ouais.
Eh bien, c'est génial. Merci Jean-François.
De rien.
Très intéressant. Alors, ITV, on va attendre la critique complète, dans le fond, sur le site de Geekbécois.
D'ici la fin, oui.
D'ici la fin? La fin où?
Oui.
Ah, oh, c'est ça. OK. J'avais compris la fin, oui, mais c'est la même chose. Alors, super. Maintenant, on va poursuivre. Bon, on va s'en aller un petit peu côté gaming. Alors, moi, je vous ai préparé rapidement un peu les sorties, ce qui s'en vient là, au mois d'août pour nous, gamers assidus. Attachez-vous, il n'y a pas grand-chose.
Ben, non, c'est non, l'été, mais... hein? Tout le monde est en vacances, c'est pas le temps de sortir les gros jeux.
Ça, moi, je m'attendais à me faire une liste incroyable, finalement, ça a été assez vite.
C'est le temps des achats à 20$. Là.
Oui, ah, ben oui.
Des bonnes bargains, oui.
C'est assez intéressant.
Puis il y a certaines promotions qui ne sont pas toujours affichées sur Internet.
T'sais, aujourd'hui, j'ai été chez Microplay. Chez Microplay, là, c'était si t'achetais un jeu préjoué, ben le deuxième était à moitié prix. Donc, c'était quand même intéressant. Tu sais, ça, c'était d'aujourd'hui, mais si je vais à tous les jours... j'ai pas de vie. Donc, on va y aller. On va y aller avec... ben, je vais vous parler d'un jeu qui m'a assez impressionné, mais dans le fond, ça sort le 27 juillet. Donc, quand on va sortir le podcast, peut-être qu'à ce moment-là, il sera sorti ou peut-être pas. C'est une surprise. Alors, le jeu que je vais vous parler, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est de chez Ubisoft. Ça s'appelle From Dust. Est-ce que tu as entendu parler de ça?
Non.
Hey, my God!
Yeah, c'est parce que faut que tu comprennes que Ubisoft, bon, je travaille là, donc oui. On fait tellement de jeux exceptionnels. Non, juste le nombre, je peux pas garder trace de tout.
Ta tête enfle, attention, Laurent.
Non, ça fait pas longtemps que je suis là, donc je suis pas au courant de bien des choses.
Mais ça m'a vraiment impressionné. C'est un jeu, ça sort le 27 juillet, ça va sortir sur PC, Xbox Live. Puis sur le PS Store, là. Donc c'est un petit jeu, on s'entend, mais c'est un jeu de gestion dans le style de, tu sais, un God Game, là. T'es un peu le dieu, là, puis tu crées un peu ta planète, là, si on veut. Puis c'est beaucoup axé sur le paysage, sur le côté, tu construis au travers d'une terre qui est vide, bien là, tu vas construire au travers de ça des chutes, tu vas travailler tes chutes, tu vas travailler tes montagnes, tu vas construire tes montagnes. C'est comme un peu jouer dans un gros carré de sable. Tu fais un peu ce que tu veux, tu sais, mais c'est assez fou. Mais rendu là, pour vrai, la seule vidéo que j'ai vue, c'est la vidéo vraiment qui nous montre un peu le côté graphique, là, qu'est-ce que tu peux faire, construire, tu peux construire des volcans. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? J'imagine,
il y a un objectif à un moment donné?
Oui, j'imagine, mais l'objectif est assez inconnu pour moi. Alors, je vais aller de ma prédiction de Colette. Dans ma tête, j'imagine que ça va être, j'imagine un jeu que tu vas avoir une civilisation à créer, tu sais, un peu à construire à la Pocket God, là, mais c'est toi qui vas décider ce qui va se passer. Tu peux avoir des ouragans, tu peux avoir des tsunamis, tu peux avoir un paquet de choses qui va arriver dans ta civilisation. Un petit jeu qui peut être intéressant, ça sort donc le 27 juillet. Passons au mois d'août, ça va vite. Des jeux qui sortent au mois d'août, Limbo. Avez-vous entendu parler de ça?
C'est un jeu de danse, non?
Même pas! Non, mais c'est un bon guess, par exemple, mais non, c'est pas ça.
Je l'ai vu affiché sur le PS Store, mais ouais. J'ai pas vérifié c'était quoi.
J'ai regardé un petit peu, c'est un peu un jeu de plateforme, en noir et blanc, tu vois comme juste une petite silhouette de petit bonhomme qui se promène au travers de différents tableaux, que ton but, il y a un côté logique aussi, fait qu'ils disent que c'est arcade, logique, plateforme, puis toutes les petites vidéos que j'ai vues, c'est vraiment juste, tu le vois traverser le tableau, fait que je sais pas trop vers où qui s'en va avec ça, mais ça a l'air vraiment intéressant, pareil, je vais l'essayer, c'est ça, je vais essayer le démo, je pense qu'il n'y a pas de démo, non, je pense que j'ai vu qu'il n'y avait pas de démo, je pense que je l'ai vu à 11,99 tantôt, qui va sortir le 2 août, par exemple, ça va sortir sur PC, sur Xbox Live, puis sur le PS Store aussi. Le 16 août, on continue, on poursuit, on a du fun. Le 16 août, il y a Age of Empire Online qui va sortir pour PC. Alors, ne sautez pas de joie. Pour les gens qui aiment ce style, ça peut être intéressant, c'est à découvrir. On passe à autre chose. Deus Ex, un RPG que moi, j'ai jamais joué. Mais bon, c'est le Human Revolution.
Fait à Montréal.
Merci pour... le petit inside. Alors, ça va sortir le au mois d'août sur PC, Xbox, PS3. Donc ça s'en vient
Driver San Francisco.
Ah oui, Ubisoft. Évidemment. Beaucoup, beaucoup d'attentes hein, pour, ce,
oui,
pour la dernière version du jeu Driver, de la série Driver.
C'est assez... je regardais justement le petit vidéo, puis c'est un peu style. Mais moi, j'ai pas vu le Driver, le premier en réalité. Là, je peux dire que j'ai jamais joué. Mais c'est un peu cartoon.
C'est exagéré, je pense. C'est, que c'est pas tout à fait.
Arcade un peu.
Oui, exactement. C'est un peu la notion d'arcade. Un peu comme certains cartoon, Need for Speed
ouais.
ont fait.
Ouais.
De un peu exagérer ouais. la physique, puis dire, ben,
les boosts,
puis ces choses-là.
Mais ça n'en parle beaucoup. Là. J'avais beaucoup d'attentes dans tout ce que je cherchais de Driver. C'est assez. Je pense que ça va être un bon jeu. Je pense que ça va être intéressant. Bon, pour les plus intéressés, je me retire. The Lord of the Ring, War in the North.
Oui, j'ai vu quelques extraits, ça a l'air intéressant.
Bon, mais je pense qu'on aura une critique. je viens de la coller. C'est au mois d'août que ça va sortir. Ça sort sur PC, Xbox, PlayStation. Donc, un autre de la série. Pour moi, Made in NFL 12. Ça, c'est
on va te perdre.
Oui, oui, on va te perdre. Mais pas comme NHL, ça, on s'en reparle. Okay. Là, on s'en reparlera plus parce que je ne serai plus là. non, je vais être là, mais devant mon PlayStation. Alors, ça sort sur PS3, Xbox, ça sort aussi sur la Wii. Donc, oui. Oh boy, trop de Wii, ça.
ça existe?
Donc, la Wii sort encore des jeux.
Ah oui?
Oui.
Ouais, ben Driver San Francisco va être sur la Wii.
Ah, sur la Wii aussi? Ah, ça, je l'avais pas vu. Bon, ben ça, c'est intéressant aussi. Il y a Backbreaker, on reste dans le football, là. Backbreaker, moi, j'avais essayé le premier Backbreaker, qui c'est un jeu de Natural Gamer, qui est un peu un jeu, c'est un jeu de football, mais exagéré, là. C'est vraiment arcade, puis c'est vraiment la physique des tout ce qui est plaquage, c'est comme à l'extrême. Donc ça, c'est assez intéressant. Puis là, c'est le Backbreaker Vengeance. Fait que je sais pas, ils se vengent de quoi, là. Ils ont perdu, puis ils sont pas contents, mais en tout cas, on verra. Alors, ça, c'est PS3 Xbox que ça sort. Puis là, j'ai trouvé ça drôle. J'ai mis ce qui sort pour la Wii, mais là, je rajoute le Driver, que je savais pas.
Il sera pas exactement le même jeu.
Ouais, mais, OK. Modifié dans le même un élément, peu, ouais. Mais c'est un peu comme tous les jeux
de Wii.
C'est ça. Dans le fond, ils sont toujours modifiés. Il y a Driver qui sort sur les autres consoles. Il y a Madden qui sort sur les autres consoles. Il y a un jeu aussi, c'est Nicktoons MLB. C'est un genre de jeu de baseball avec SpongeBob.
Ah, c'est vraiment par Nickelodeon, le réseau américain.
Oui, ben c'est 2K Sports qui le fait. Fait que j'imagine côté baseball, ce ne sera pas mauvais, mais encore là, c'est quand même la Wii. En tout cas, on verra. Et le deuxième, attachez votre truc, c'est, je ne suis jamais capable de dire ce mot-là, fait que bidonnez-vous, Sesame Street.
Sesame Street.
Ready, Set, Groove. C'est ça le jeu. Donc, amusez-vous les enfants, c'est pas pour nous. Alors, c'est ça, c'est tout pour moi. Ça, c'est au mois d'août ce qui s'en vient. Alors, on va s'amuser beaucoup avec les autres jeux qu'on a achetés durant l'année. Et non, sérieusement, c'est sûr que moi, je risque de toucher un peu à ce qui est Madden. Le football, c'est sûr. Limbo, ce serait quelque chose qui m'intéresse. Je serais curieuse de voir. Lord of the Ring, peut-être... Jean-François va être intéressé de.
Moi, c'est les jeux de course, le Driver, ça va.
Ah,
va falloir
Driver?
Un essai.
Oh. Bon, parle-moi de ça. On a déjà quelqu'un pour Driver. Fait que je pense qu'on va être capable de toucher à une couple de trucs. C'est sûr qu'il y a des. Bon, c'est pas tout Sesame Street. Je pense que. Ça, c'est mon dessus. Je pense pas l'essayer. Mais bon, c'est quand même ça. Fait que c'est ce qui touche au jeu. Puis là, ben, on va rester dans les jeux. Jean-François a testé un jeu que je suis un peu jalouse parce que. J'ai très hâte de le jouer, de l'essayer, puis j'ai pas eu le temps encore. Alors, il va nous faire un début de critique parce que tu vas la faire, sûrement tu vas la publier celle-là aussi prochainement.
Prochainement, oui.
Donc, sur Alice Madness Return. Comment t'as trouvé?
Effectivement, en premier, c'est une suite du American McGee's Alice.
Ah, ça, c'était spécial.
Ouais. Sorti en 2000, quand même, une suite après 11 ans.
Ouais, c'est
un petit
attendu
peu long,
aussi,
là.
C'est attendu.
Est-ce que le résultat vaut comme J'ai pas essayé le premier.
J'ai adoré. C'était tellement twisted. C'était...
Ouais, c'est ça.
Les graphiques, c'était une ambiance tout le temps macabre.
Mais
c'était dérangeant.
J'ai même pas essayé. Je suis un peu comme Jean-François. J'avais pas essayé le premier. Mais j'en ai tellement entendu parler. Puis tous les mots que tu viens de dire, là, c'est ce que j'entends à chaque fois que quelqu'un m'en parle.
C'est la même chose dans le deuxième.
Oui. Ah, oui,
génial.
Okay.
Ceux qui aiment le macabre, le côté sombre, le sang.
Psycho-dérangé.
Oui, pour ça, oui. Écoutez, dans le fond, je ne sais pas si c'est une suite directe, ouais. Sauf que ça commence 10 ans plus tard après que ses parents soient morts dans un incendie et qu'elle est dans un asile psychiatrique parce que la petite fille est troublée d'avoir perdu ses parents, mais troublée énormément. Elle ne parle plus.
Plus que l'exorciste.
Puis... on la suit, elle vient qu'à aller chercher sa médication elle-même à Londres, parce que le psychologue la croit sûrement assez saine d'esprit pour se promener dans la rue sans problème. Puis elle rencontre un chat et elle suit le chat parce qu'elle aime les animaux, hein, comme dans Alice au Pays des Merveilles, elle suit le petit lapin blanc. Donc le chat l'amène directement au Pays des Merveilles et on rentre dans un pays plein de fleurs, de couleurs.
Ah oui, OK.
Oui, oui, tout est joli, tout le kit, mais plus qu'on avance, plus que ça change rapidement. Je vous dirais que c'est assez surprenant à quel point que ça change rapidement. Les outils sont assez intéressants. Les armes. Moi, c'est rare que j'utilise du poivre pour battre des ennemis ou une théière.
C'est bon.
Donc, c'est assez original sur ce côté-là. Sauf que, si ça déplaît à certains, il y a beaucoup de longueur. Non, les tableaux sont très longs et ce que je pourrais dire, c'est que il aurait pu faire des tableaux plus courts et plus diversifiés, tandis que là, ils sont vraiment trop longs. C'est trop le même décor trop longtemps. Ça se répète, les ennemis se répètent aussi. Sauf que c'est quand même assez agréable, dans le fond, au niveau du gameplay. Ça fait penser un petit peu à Zelda, parce qu'on peut capturer l'ennemi avec un zoom là, pour viser dessus directement. Sauf que si l'ennemi bouge trop, ben, le zoom ne fonctionne plus. Il y a des petits problèmes de caméra sur ce côté-là.
C'est quel style de jeu, excuse-moi?
C'est un jeu de plateforme, un petit peu... C'est un troisième personne. Je vous dirais que c'est un petit peu à la God of War. Dans le fond, c'est que vous faites promener Alice c'est un chemin défini. Vous ne pouvez pas sortir du chemin. C'est pas un jeu ouvert comme Assassin's Creed ou tout
C'est ça.
Vous êtes obligé de suivre le chemin. Et elle doit se transformer souvent en petite. Tu sais, lorsqu'elle boit, elle rapetisse. C'est essentiel dans le jeu qu'elle fasse parce que elle va ramasser des roses rouges en faisant des défis. Et c'est les roses rouges, c'est un petit peu comme des cœurs dans Zelda.
C'est la dame de cœur,
C'est comme des cœurs dans Zelda aussi. Ça va augmenter sa vie en haut, c'est ça. Donc, les ennemis sont parfois assez durs. Donc, moi, j'ai joué en mode...
C'est comme des monstres à la fin de tableau? C'est-tu comme ça ou c'est au travers?
C'est au travers. Il n'y a pas de monstre à chaque fin de chapitre. C'est graduel. Puis pendant toute son aventure, elle va retrouver des souvenirs enfouis dans sa mémoire. Puis on va voir que nécessairement, si elle est si troublée que ça, c'est pas à cause de elle directement. Il y a peut-être quelqu'un qui fait en sorte qu'elle soit folle.
C'est
ça. Donc, je vais vous en parler plus au niveau de ma chronique, peut-être d'ici 2 semaines à peu près.
Parfait. Puis, tu sais, rapidement, sans dire un chiffre, mais ta critique générale, tu sais, toi, tu as apprécié, c'est un jeu que tu vas rejouer. L'as-tu fini au complet?
Oui, je l'ai fini au complet.
Combien de temps?
Ça a pris entre 15 et 20 heures. C'était assez long. C'est pour ça que je dis que c'était redondant.
c'est ça.
Tu as eu l'impression qu'ils ont étiré la sauce un peu.
Oui, ils ont étiré la sauce, justement. Mais peut-être s'ils auraient fait plus de diversité au niveau des tableaux ou des paysages, ça aurait peut-être mieux aidé. Mais bon, sinon, ce que je pourrais dire au niveau de la note, c'est que là, je la garderais pour le site web.
Mais tu sais, c'est-tu quelque chose que tu proposes? Tu le conseilles à tes amis?
Je vous propose pas de l'acheter.
OK. C'est bon.
Ou si de l'acheter, j'attendrai qu'il soit à 20$.
C'est ça, dans les bons prix.
Ouais. Parce que ceux qui sont fans du premier, je vous le conseille.
Ouais.
Mais pas au prix actuel.
Non, c'est ça. C'est ça, au full price, ça fait mal un peu. Très intéressant. J'ai assez hâte. Mais je vais quand même l'essayer.
Je vais te le prêter.
Oui, ça c'est encore mieux.
On est là pour ça.
Ben oui. Mais c'est sûr que ça, je vais vouloir l'essayer parce que je suis fan du film. Mais bon, c'est pas la même chose.
Non, pas du tout.
Je vais chercher le petit minou, je pense.
L'univers que American McGee a créé dans le premier, on n'est pas là pour
C'est ça.
Comme Alice, c'est le thème principal.
Oui.
C'est comme le monde imaginaire.
Il y a quand même des références, les roses.
Le costume.
Mais à part ça, là,
les personnages.
Ça se ressemble pas.
On revoit le chat, le chapelier fou, la reine de cœur, sans problème.
C'est ça. Ça, c'est intéressant. C'est fun qu'elle aille au moins chercher des éléments, mais que ça soit dans un univers complètement autre.
On s'attend pas à ce que Walt Disney mette un couteau dans les mains d'Alice, par contre.
Ouais, ça, c'est autre chose.
À moins que ce soit un couteau à beurre.
Oui, c'est ça. Et encore, bout très, très rond.
En plastique.
Oui, c'est ça. Ben merci, Jean-François.
De rien.
Alors maintenant, on va passer à une section hobby. Ça va être différentes choses là, qu'on va pouvoir parler de temps en temps, des choses qu'on a essayé de différents, de techno. Et cette fois-ci, c'est Steve qui va pouvoir, qui prend le micro pour la première fois d'ailleurs.
Bonjour,
qui
bonjour
va pouvoir,
Steve.
Qui va pouvoir nous
Salut.
Parler de géocaching.
Quand on parle de différents, on parle de Steve.
Oui, c'est ça. Ça, c'est autre chose.
Je suis spécial. je vais vous parler de géocaching. C'est quelque chose... C'est un sport, un jeu, un loisir social, universel. Ça se passe à travers le monde. Ça existe déjà depuis presque une dizaine d'années. J'ai découvert ça il y a environ 3 semaines. Et puis, je pense que c'est le genre de loisir que je serais capable de lâcher la job pour le faire 24 heures sur 24. Le géocaching, ce que c'est, grosso modo, c'est que partout à travers la planète, il y a des ce qu'on appelle des caches, c'est-à-dire des contenants qui ont été cachés dans la nature, vraiment dans des environnements totalement différents un des autres, c'est-à-dire ils peuvent être cachés dans des zones urbaines, dans des zones rurales, complètement dans une forêt. Il pourrait y en avoir une à 2 minutes de chez vous, puis vous le savez même pas. Ça a été caché un peu partout par des usagers usagers du site geocaching.com. Et voilà, le but du jeu, évidemment, c'est de s'armer d'un GPS, un récepteur GPS ou d'une application pour smartphone.
Donc, on n'est pas dans le monde virtuel, là?
Non, absolument pas. On parle vraiment de votre petite planète Terre que vous avez l'occasion d'explorer. Peu importe où vous vous trouvez, là, c'est-à-dire si une journée vous êtes sur la rive sud, une autre journée à Québec, l'autre à Las Vegas. Bon, c'est pas la première chose que je vous ferais faire à Las Vegas, là, mais il peut y avoir des caches autour de vous. Et tout ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est télécharger les coordonnées, c'est-à-dire longitude, latitude, de l'endroit où se trouve la cache. Et puis, vous obtenez ces coordonnées-là, bien sûr, sur le site de Geocaching. Vous envoyez ça dans votre GPS. Et puis, vous partez. Dans le fond, ce que c'est que c'est une chasse au trésor pour les grands.
C'est comme quand on est enfant. C'est ça. C'est pour les grands.
Oui. Mais moi, je suis toujours un petit peu enfant. Fait que...
Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement? Des indices?
En fait, non. Ce que vous avez besoin de savoir se trouve tout sur le site Geocaching. Donc, je vous donne un exemple. Je suis à Montréal. Et puis, on me dit que, à côté de la place Ville-Marie, il y a une cache. La cache étant l'objet qu'on recherche. Donc, je prends les coordonnées, je me rends, et puis à ce moment-là, dès que j'arrive près de ce qu'on appelle le point zéro, donc c'est-à-dire près de...
La cible.
Oui, de la cible, exactement, du gros X sur la map. Là, il faut tomber en mode observation, c'est-à-dire là, on fouille, on fouille vraiment partout. Là. J'ai un petit peu d'expérience et je peux vous dire que les gens qui ont décidé de les cacher voulaient s'arranger pour que ce soit pas n'importe qui tombe dessus. Donc, c'est très rusé. Et puis voilà, c'est ça. C'est que ce que vous recherchez, c'est un contenant. Et dépendamment du type de cache que vous recherchez, il peut y avoir 4 grosseurs de cache. Donc, on parle d'une cache régulière qui, grosso modo, c'est environ la taille d'un plat Tupperware, là, d'un plat à sandwich, là, si vous voulez. Il y a des caches larges qui peuvent aller d'une grosseur de boîte à lunch jusqu'à un coffre à outils camouflé dans le bois. J'ai vraiment tout vu sur Internet. Puis, il y a des micros. Ça peut être gros comme une boîte de pellules. Et puis, il y a des nanos. Ça, c'est pour ceux qui aiment vraiment le défi. Ça peut être un...
une roche.
Oui, ça peut vraiment être un caillou, un coquillage. Ça peut être...
Si on est dans du défi à le trouver.
Oh oui, vraiment. Si on est dans un environnement, ça peut être quelque chose d'aussi subtil qu'une botte, là. Une noix, une vis... n'importe quoi. Faut vraiment se dire que ceux qui les ont cachés voulaient s'arranger pour que ce soit pas n'importe qui tombe dessus. Et puis, dans chaque cache, il y a ce qu'on appelle un logbook. C'est un carnet de visite, dans le fond. C'est pour simplement laisser votre trace pour dire « bon, ben bonjour, j'ai trouvé celle-ci, telle date, telle heure. » Vous signez votre nom souvent les gens.
Pour te mettre dans la communauté pour que le monde sache que toi, tu l'as trouvé.
Oui, c'est ça. C'est ça. Puis souvent, les gens vont signer leur nom d'usager qu'ils utilisent sur le site geocaching.com. Et puis, voilà, c'est ça. Puis dans les caches un peu plus grandes, c'est-à-dire de taille moyenne à large, il y a des objets. Les gens laissent des petits objets, un genre de petit trésor. C'est jamais rien d'une très grande valeur. Mais vous êtes invité à prendre un objet et puis en retour, en laisser un d'une valeur équivalente ou supérieure à celui que vous trouvez. Donc, un exemple encore, une cache que j'ai été faire il y a deux semaines, il y avait des petites voitures puis des petits animaux en plastique dedans. Donc, j'ai pris une petite voiture, un petit animal en plastique, une girafe, pour ma fille qui aime les animaux puis pour moi qui aime les petites voitures. Puis, en échange, j'ai laissé des jetons de poker, j'ai laissé 2 dés truqués aussi. Donc, c'est vraiment rien d'une très grande valeur, mais on le fait pas pour le trésor, vraiment. On le fait plus pour la chasse. Et puis, je dois dire que c'est vraiment, vraiment amusant.
Ce que moi, j'ai trouvé fun quand Steve avait parlé de ça, c'est que ça coûte rien. Tu es à l'extérieur, tu te promènes, t'as ta place où tu dois te rendre, tu te rends là, tu sais pas dans quel genre de terrain tu vas te retrouver. À un moment donné, j'étais dans un champ de quenouilles.
Oui, en fait, tu peux t'en douter un peu parce que, évidemment, chaque cache qui est répertoriée sur le site a des explications. C'est, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des classifications. Donc, une cache à 1 étoile de niveau de difficulté va être sensiblement facile à trouver. Et puis, il y a aussi, mettons, une cache à 1 étoile de terrain, c'est-à-dire exactement ça. Dans le fond, le terrain, il sera pas trop ardu. C'est-à-dire, vous allez être sur du gazon, vous allez être dans de la gravelle, ça sera vraiment pas compliqué. Il y a des caches 5 étoiles de terrain. Ça prend pratiquement une maîtrise en escalade pour pouvoir essayer de la trouver. Et puis, c'est ça, les caches sont classées de cette façon-là. C'est-à-dire par taille, par difficulté et puis par le terrain qui les entoure. Ouais. Et puis, quand Lynn disait que c'était gratuit, c'est gratuit en très grande partie.
Ouais.
C'est ce que je veux dire, c'est que pour la plus grande communauté connue, la plus facile d'accès, puis la plus user-friendly, excusez l'anglicisme, c'est geocaching.com. Vous allez sur le site, c'est gratuit, vous créez un compte. Vous pouvez aussi vous créer un compte premium qui vous donnera plus d'options, mais pour les options de base qui sont fournies avec le compte de base, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir. Et puis, une fois que votre compte est créé, simplement en entrant votre code postal ou quoi que ce soit, le site va, par localisation, va vous donner un genre de une map, c'est-à-dire une map à la Google Maps, et puis vous montrer toutes les caches qui sont autour de vous. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est vous en choisissez une, vous lisez les infos dessus, les indices pour vous aider à la trouver. Et puis chaque cache, dans les infos de chaque cache, il y a une info un petit peu touristique des alentours. Parce que souvent, le but du géocaching, c'est de vous faire voir des coins que vous ne connaissez pas aussi. Ouais.
Est-ce que c'est mondial?
Oui, absolument. Oui. Absolument.
Donc c'est le fun pendant les vacances en plus?
Oui, puis...
Petite journée, aujourd'hui on fait géocaching,
on avait regardé, même dans le sud. Tu sais, t'es dans le sud, tu peux être à Punta Cana, dans un resort, puis tu te dis, on va faire un géocaching, puis il y en a. C'est ça qui est fou, il y en a partout.
Vous irez le faire, moi, je vais aller me baigner. Mais non, vraiment, c'est partout. Puis c'est aussi pas un sport de compétition, c'est vraiment plus de l'exploration. Puis ce qui est bon là-dedans, c'est que il n'y a rien qui vous empêche une journée où vous partez en famille, là, papa, maman, le petit gars, la petite fille. Bon, ben aujourd'hui, on s'en va trouver des trésors. Et vous allez allumer vos deux enfants. Ouais, c'est vraiment une belle façon, comme disait Laurent, de découvrir des coins que vous ne connaissez pas. Là. Vous avez probablement des coins autour de chez vous que vous n'êtes jamais allé, puis que ça va être une bonne excuse pour les découvrir.
C'est ça.
Ça fait 5 ans que j'habite dans mon coin ici, puis j'ai découvert un bord de lac là, complètement incroyable avec une vue débile. J'ai pas trouvé la cache, mais bon.
C'est autre chose.
C'était ma première expérience. On les trouve pas toujours, mais des fois, juste le fait de courir après, c'est vraiment intéressant. Donc, pour le seul matériel que vous avez besoin, comme je vous dis, c'est d'avoir un récepteur GPS ou il y a l'alternative des smartphones. Donc, il y a des applications qui existent pour iPhone et Android. Évidemment, pour iPhone, l'application Geocaching officielle, si vous voulez, faite par le site, par la compagnie GroundSpeak, va vous coûter 10$. c'est dur de décider si on veut dépenser 10$ pour essayer un loisir qu'on n'a jamais essayé encore. Moi, ben, je suis niaiseux, fait que je l'ai fait. Je suis très compulsif, puis je le regrette pas. L'application est vraiment complète parce que c'est une version mobile du site. Et puis, en plus de ça, il y a une boussole intégrée. Vous n'avez pas à entrer manuellement les coordonnées de la cache. Donc, tout se fait. Vous choisissez, c'est ça, vous choisissez votre cache. Vous dites, bon, ben faites-moi naviguer jusque-là. Et puis, bon, ben vous y allez, vous prenez la voiture, le vélo, rollerblade, traîneau à chien. Je ne sais pas où vous habitez, là. Mais, et puis, une fois rendu sur le terrain, il vous reste juste à chercher avec votre téléphone en main. Et puis, ça fonctionne vraiment bien. Il y a des applications alternatives, dont une que j'avais essayée avant de dépenser 10$. Sur iPhone, elle s'appelle Commander Compass Lite. C'est une version gratuite d'une application.
On les mettra sur le site.
Oui, je vais mettre éventuellement quand le podcast va sortir et puis que le site va être mis à jour. On va avoir tous les liens de tous les articles, de tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, dont les miens. Et puis, c'est ça, Commander Compass Lite, qui est une version mobile, si vous voulez, d'une boussole, mais qui vous permet d'avoir sous la boussole le terrain où vous vous promenez. Donc, vous avez une carte satellite juste en dessous, et puis, bon, ben, ça vous donne un bon endroit de où chercher.
Ouais.
Fait que, voilà, c'est ça en gros. J'encourage vraiment tout le monde à l'essayer. C'est gratuit de l'essayer de toute façon. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire entre amis.
C'est le fun aussi le fait que, je vais donner un exemple, Steve en fait, ben moi j'ai le goût de l'essayer, je suis pas obligée d'être embarquée, on a juste besoin d'avoir quelqu'un qui l'a, cette boussole-là. Puis ensuite, n'importe qui peut dire, bon, ben je vais aller le faire avec toi, je vais l'essayer. Donc, ça, c'est intéressant. Ça peut devenir quelque chose à faire en groupe facilement.
Oui, c'est ça. Puis, c'est pas quelque chose que... C'est pas un sport, comme je vous disais, c'est pas un jeu. C'est tellement plusieurs choses en même temps. Puis, c'est rien de compétitif. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être performant ou quoi que ce soit. Vous en faites deux une semaine, puis trois mois après, vous voulez en faire un autre. Vous y allez. Il n'y a aucune pression. C'est intéressant de le faire quand ça vous tente de le faire. Tu sais, je veux dire, il y a des concours, il y a des compétitions de geocaching. J'ai vu ça cette semaine en regardant des vidéos sur YouTube. Mais selon moi, ça perd un peu de son cachet dans le sens que tout le monde court après la même chose. Donc, tout le monde fouille. Je sais pas.
C'est pas vraiment le but. Le but, c'est vraiment quelque chose de plus relax.
Oui, c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis c'est
bon enfant.
Pardon?
C'est bon enfant.
Oui, vraiment, c'est ça. C'est rien de compliqué. C'est vraiment simple. Puis c'est souvent une façon de relaxer aussi. Tu sais, je me retrouve avec mes pensées et puis je pleure.
C'est écrit des livres.
Devant,
c'est poétique.
Oui, c'est ça.
En plus, il y a tout là-dedans.
Devant
tout.
Un beau coucher de soleil, je me mets à pleurer, mais ça. Mais alors voilà, fait que j'encourage tout le monde à faire ça. Si vous êtes curieux, allez simplement sur le site geocaching.com. Il y a un endroit, je crois que c'est disponible sans même vous créer un compte. Il y a un endroit où vous pouvez écrire votre code postal. Puis vous allez quand même rester surpris du nombre de caches qui peuvent se trouver autour de vous. Donc, je vous conseille de l'essayer. Et puis, redonnez-moi des nouvelles. Si jamais vous essayez ça, puis ça vous intéresse, venez nous voir sur GeekBécois, puis laissez-moi des commentaires.
Super, ben merci Steve.
J'ai fini, je m'en vais faire dodo.
Merci Steve, c'est très fun. Je vais l'essayer avec toi parce que j'arrête pas de dire que je vais le faire et je ne l'ai pas fait encore. Mais je vais l'essayer avec toi, c'est promis. Passons à un autre sujet. Maintenant, on va aller voir Alexandra, cette belle petite sage.
Oui.
Faut dire qu'elle est assise dans un lazy boy à ma fille depuis le début, c'est drôle. Alors, on va y aller avec tu vas pouvoir nous parler des séries télé qui sortent prochainement, au mois d'août, septembre, c'est ça?
À l'automne, en fait. C'est la saison automne 2011, en fait, les nouvelles séries qui vont sortir.
Plus que les jeux vidéo, j'imagine.
C'est ça, il y a toutes les bandes annonces en ce moment qui passent sur tous les réseaux. J'en ai sélectionné quelques-unes qui pourraient intéresser le public de Geekbécois, en fait. Je vais commencer par Terra Nova, qui est la plus publicisé en ce moment, là, ça passe vraiment tout le temps sur la Fox. En fait, c'est un petit peu comme un Jurassic Park quand on regarde la bande-annonce.
Ouais, c'était un peu... Moi, au début, j'étais là, il me semble qu'on retourne en arrière un peu, là. Je me dis, on est en quelle année, là?
C'est ça, exactement. En fait, ça se passe en 2149.
OK.
La Terre devenue inhabitable, les gens ne peuvent plus respirer, tout ça. Et les scientifiques inventent une machine à voyager dans le temps.
Okay.
Et il retourne 85 millions d'années avant sur la Terre. Donc là, on va suivre une famille qui va s'installer au pays des dinosaures, en gros. Hein, mais le seul problème, c'est qu'il s'avère que les dinosaures sont carnivores. Ouais. Donc il y a pas mal de suspense et tout. Ça a l'air d'être assez sombre, assez gros budget apparemment pour la Fox. Donc ça va être pas mal intéressant.
Ouais. Ça commence cet automne.
C'est tout à l'automne, ouais. Oh, ouais. Cool. J'ai sélectionné aussi le Charlie's Angels, en fait. ABC refait la série, c'était des années 70,
ben
ça,
oui,
je pense.
Oui, c'est ça. Mais il y avait eu un film, quand même.
Deux films, oui. Deux films, c'est d'ailleurs, bien. C'est Drew Barrymore qui produit aussi la série. C'est elle qui avait produit les films et qui jouait dans les films aussi. Ça. On reprend le même thème que la série originale, mais là, ça se passe en Floride, alors que l'original se passait en Californie. J'avoue que j'ai pas trop été impressionnée par le trailer. Ça a l'air de jouer surtout sur l'esthétisme, la plastique des comédiennes, mais j'ai pas l'impression que le scénario va suivre derrière. Okay. Donc, bon, je vais quand même regarder
le
pilote.
Des films pour le fun?
Non, j'ai pas pris le nom des films, malheureusement. Ensuite, deux séries de J.J. Abrams. J.J. Abrams, c'est le gars qui a fait Lost. Donc, il y en a une sur CBS qui s'appelle Person of Interest. Donc, là, on va retrouver, je sais pas si vous connaissez Lost, mais on va retrouver Ben, le méchant dans Lost. Il joue. C'est exactement ça. C'est ça. Tellement un bon comédien, là, c'est incroyable. Il joue un milliardaire, en fait, qui a créé un logiciel. Ce logiciel permet de prédire les crimes à venir. Donc, c'est un peu comme genre, le film avec Will Smith là, qui était sorti, où c'était Tom Cruise, je ne sais plus, en tout cas.
Minority Report.
Exactement. Oui, c'est ça que je pensais.
Minority Report. Il a sorti ça. Steve avec les films, ça va bien.
Donc, ce gars-là, il va travailler avec la CIA pour contrer les crimes. Ça peut être intéressant, surtout c'est J.J. Abrams, donc pas mal de suspense.
Ça devrait être quand même bon.
Et ensuite, J.J. Abrams, toujours, a fait Alcatraz. Donc, ça va parler de la prison. Ça va sortir à mi-saison 2012.
Ça peut être assez bon.
Ça a l'air très, très bon. Ouais, ils en parlent pas mal à Comic-Con là, en ce moment. Ce qui se passe à Alcatraz, c'est que 302 prisonniers disparaissent de la prison en une nuit, en fait. Donc, là, on va retrouver Hugo de Lost. Il va jouer un geek hippie qui est spécialisé dans l'histoire de Alcatraz et puis qui va aider aussi les policiers à investiguer sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Tout le monde a disparu. Donc, ça a l'air pas mal intéressant.
Dans le fond, on va suivre la vie de ces prisonniers-là.
C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Comment ils ont disparu? Tout ça. Donc, ça c'est mi-saison 2012 sur la Fox. Ensuite, on a une série sur NBC qui va sortir à l'automne qui s'appelle Grimm. Grimm. Les contes de Grimm. Ça, c'est justement, ça joue sur ces contes-là. Ils partent de ces contes-là pour faire des enquêtes policières, en fait. C'est un gars qui enquête sur des homicides, un policier, il enquête sur des homicides. Et sa tante lui révèle un jour qu'il est descendant d'une famille de chasseurs qui s'appelle les Grimm, qui doivent se battre contre des créatures fantastiques. Donc là, on a des loups-garous.
On pousse loin, là.
On retrouve un petit peu dans la bande-annonce, là, une fille avec une veste rouge, donc c'est en référence au petit chaperon rouge, etc. Ça. Donc, c'est les créateurs de Buffy et de Angel. Donc, j'ai peur que ça soit un petit peu enfantin. Ouais, mais ça peut être intéressant quand même. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai relevé pour cet automne.
Mais il y a beaucoup de choses quand même.
Ouais.
Moi, Terra Nova, je vais être curieuse de voir ça.
Ouais, moi aussi, j'ai bien hâte de voir.
Dans toutes les émissions lesquelles tu risques de suivre le plus?
Terra Nova et Alcatraz, c'est sûr.
Alcatraz, à vous, ça a l'air pas pire. Merveilleux! Alors, merci beaucoup, Alexandra. C'était très intéressant.
Je t'en prie.
Alors, on est rendu à la section que moi, je suis très contente d'avoir pensé. Je me lance des fleurs. j'avais pensé à faire un petit côté orange-citron, juste pour rajouter un petit peu de contenu, puis en même temps, pouvoir dire nos tops et nos flops du mois. Donc, c'est un peu ça ce qu'on va faire. Alors, je sais pas qui veut commencer.
Toi?
Moi? Ben, je vais commencer. Avec plaisir. Alors, mon orange. Je vais commencer avec mon orange. C'est un petit bruit d'orange. C'est beau, hein? Alors, mon orange, moi, je le donne à un jeu de iPhone que je suis tombée totalement accro, et je dois le dire. C'est Tiny Wings. Sûrement que tout le monde le connaît parce que ça fait quand même longtemps que ça existe, mais c'est un jeu qui devient assez rapidement addictif. On tombe en amour avec notre petit oiseau, que son but, dans le fond, c'est de sauter des espèces de... C'est un jeu tellement simple, dans le fond.
Des oiseaux qui sautent, ça me dit quelque chose.
Oui, c'est ça.
Y a-tu des cochons?
Non,
cochons verts.
Non, ils sont pas là. Mais bon, c'est un petit oiseau. Ça doit être Tiny Wings, ça doit être son nom. Et son but, c'est de sauter à différentes îles avec un concept bien, bien simple. C'est on touche avec notre doigt, là. Et quand on touche, ça lui donne du poids. Donc, il va descendre la côte. Et quand on enlève notre doigt, il devient plus léger, donc c'est là qu'il va voler. Donc, son but, c'est sur des effets d'élan. Là. On lui donne des élans pour qu'il saute les collines le plus rapidement possible.
Ça marche par gravité, dans le fond.
Oui, ça marche un peu comme par gravité. Et il y a le côté que, bon, tu peux ramasser des soleils qui sont des petits ronds jaunes. C'est bien original. Ça, c'est des soleils. Et quand on ramasse les soleils, ça l'allonge la journée. Parce qu'à la fin de la journée, quand la nuit arrive, c'est terminé. Le petit oiseau fait dodo et c'est la fin de ton tableau. Donc, ton but, tu as des espèces de défis. Par exemple, il faut que tu te rendes à 50 000 points. Donc, ça, les points, tu les vois se dérouler dans le bas de ton écran. Et ton but, c'est de faire voler ton oiseau le plus longtemps possible avant que la nuit arrive. Donc, c'est ça. Donc, c'est un beau petit jeu. Moi, au début, j'ai commencé à jouer, je pensais que c'était rien. Et finalement, après trop d'heures à jouer...
Est-ce que c'est gratuit?
C'est, non, c'est 99 cents. Okay. Non.
Bon, un petit dollar,
c'est... Un petit dollar pour un jeu que tu dors plus, c'est le fun. c'est vraiment le fun. Mais, puis, bon, on embarque dans un espèce de challenge que tu as le goût de compétitionner. C'est très intéressant. Trop longue orange, mais j'y vais avec mon citron. Parce qu'évidemment, nos oranges au citron, on essaie de les faire courts. Alors, moi, j'exagère. Alors, je vais y aller avec mon citron.
Flashback. Alors,
en fait, c'est un peu un orange et un citron du sens que c'est le guide pratique Lantier. Et Lantier dans le nom de famille, là, L-A-N-T-H-I-E-R, et non pas Lantier comme le tout. Là, okay? Alors, c'est un guide de médecine interne, pratique, qui disent que c'est familial, que c'est basé sur la 5e édition du livre qui existe déjà. Et ce que c'est, en réalité, c'est un guide pratique qui est supposé d'être efficace, ainsi de suite. Mais moi, le côté négatif, un peu, c'est le prix. Je sais que c'est comme un livre que tu possèdes dans tes mains, mais 34,99, ça m'a fait un peu mal. Moi, je ne possède pas de livre de médecine, je devrais peut-être en avoir un. Puis quand j'ai entendu parler de ça, parce qu'ils en ont parlé un peu partout, à ce moment-là, je me suis dit, crime, ça serait peut-être ça que je pourrais prendre. Mais à 34,99, ça m'a...
Ouais, tu vas à la bibliothèque, c'est gratuit. Quoi.
Ben, ouais, mais là, on s'entend, là, c'est pas juste aller sur Google puis taper tes symptômes. Là. C'est un guide complet, extrêmement bien détaillé d'informations médicales vérifiées.
Oui, si je vais à la bibliothèque,
je peux l'avoir. Oui, mais quand t'es pas à la bibliothèque...
Mais mettons que je suis à la bibliothèque. Non.
moi, j'ai pas juste mal à la tête à la bibliothèque.
Non, je sais.
Si tu casses une jambe, tu vas-tu sauter jusqu'à la bibliothèque?
Ben, je vais y passer. Pour 34,99. Non.
Mais le livre s'adresse peut-être pas non plus. Tout le monde.
C'est pour ça que je dis que c'est un côté orange et citron, du sens que le côté positif aussi, les updates sont gratuits. Donc, quand le livre va être updaté, il va y avoir de nouvelles choses, ça va être updaté gratuitement. Ça, c'est quand même bien, mais j'espère.
J'imagine les étudiants en médecine, ils doivent raffoler de ça.
Oui, ils doivent capoter. C'est peut-être pas pour moi, finalement. Je ne m'en irai pas en médecine cette année. Bon, alors, c'était mes oranges et mes citrons. Je vais continuer avec Laurent.
Bon, ben moi, j'y vais avec mon citron en premier. Cette semaine, vous l'avez vu si vous avez lu mon billet sur Geekbécois, les cellulaires, les forfaits d'itinérance. Oui, le data ne coûte pas trop cher au Canada, même si on est dans les pays où le cellulaire et l'Internet coûtent le plus cher.
Ouais.
Quand on traverse les lignes, aïe aïe, ça coûte un prix pas de fou, pas hallucinant, mais complètement malade mental, ridicule, j'ai jamais vu ça, faut que je mette ma maison en hypothèque si je veux aller sur Google. Puis ça, c'est généralisé. Puis c'est pour ça que c'est un citron. C'est pas juste comme compagnie A décide de vendre cher, puis tant pis, moi je vais aller chez compagnie B. C'est tout le monde, c'est cher. Il n'y a pas de compétition.
Pareil.
On n'a aucun choix. Le consommateur a rien à dire.
Ouais, c'est ça.
Puis si on va aux États-Unis, c'est la même chose. Un Américain qui est avec son AT&T qui vient au Canada, là, ça lui coûte
même
aussi
chose.
Cher que moi avec Rogers ou Bell ou TELUS aller aux États-Unis. C'est la même chose partout. Pourquoi? Pas de compétition.
Ouais,
on charge ce qu'on veut.
C'est ça.
Ben, gros citron pour eux autres. Bien écrasé.
Il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui sorte de quoi? Puis là, ça baisserait.
Et mon orange?
Dans le fond, on peut aller lire ton article si on veut en savoir plus.
C'est pas un article informatif, c'est vraiment un billet d'opinion. Mais j'ai fait le tour quand même du sujet de la situation.
On sent que c'est du vécu. Hein?
Oui, c'est ça. On voit la veine dans le front. Là. Oui. Alors, tu y vas avec ton orange?
Oui. Là, c'est directement un petit truc relié à Lyon, la nouvelle version de OS X. C'est pas Lyon comme tel, c'est la méthode de distribution. Je donne un orange à ça.
Okay.
Tout le monde qui a son Mac avec le App Store dit « Ah, moi je veux Lyon! » Clic, clic, Lyon arrive, clic,
c'est
clic,
fait.
Lyon s'installe, c'est fini.
Pas de CD, pas dans des magasins. Oui, on est habitué à ce modèle-là pour la distribution des logiciels, c'est vrai, mais pas pour un système d'exploitation.
Non,
si vous voulez Windows, le prenez où? Vous allez au magasin, vous prenez la boîte, vous la ramenez, vous avez tous les codes avec les hologrammes et les patentes qui viennent avec la boîte. L'installation, c'est un DVD, puis vous n'avez pas le choix de passer au travers.
Ouais,
Lyon, clic, c'est réglé. Wow.
Pas de CD, c'est
bravo.
Directement.
Oui.
Et puis
bravo,
tu n'as pas de risque de perdre ta licence en plus, parce que la boîte, elle est vite perdue en général.
Oui, c'est ça. C'est tout intégré avec mon compte App Store. C'est déjà comme... All taken care of. J'aime ça. Orange.
J'adore ça.
Super. Allons-y avec Steve, Alexandra. Alexandra?
Je vais commencer avec mon citron.
D'accord.
Mon citron, c'est pour les organisateurs de Oshiaga.
OK.
Qui ont choisi de mettre le show de Eminem en même temps que Universe of Nerds, juste pour rire.
OK.
À la même heure, le même jour. On ne peut pas être partout.
Non, c'est ça.
Donc, c'est assez agaçant.
Et tu vas être où?
Tout simplement. Bah, je vais d'abord à Oshiaga, ensuite je cours dans le métro pour aller à Universe of Nerds. C'est assez mal gérable.
En rasant, tu as foulé une cheville.
Exactement.
C'est ça. Et là, tu as besoin de lentilles, 34 $, pensez.
Ah bon, ça y est. Et voilà, la plug.
Mais je peux passer par la bibliothèque entre-temps, c'est sur le chemin. Okay.
Donc, tu te casses la jambe en avant de la bibliothèque.
Et je m'arrête à Berry.
C'est ça, c'est bon, on va l'avoir. Mets ton orange.
Mon orange, bah, c'est pour l'app de Google Plus qui est enfin sortie pour iPhone, qui était vraiment attendue là, pendant ces petites semaines. Tout le monde se demandait, mais est-ce que ça va sortir?
Ouais.
C'est enfin sorti cette semaine, donc bien contente.
C'est vraiment moi qui a fait que j'ai le goût de l'utiliser.
Exactement.
Je suis tellement sur mon iPhone que c'est ce qui fait que, ok, oui, je veux embarquer.
Ouais, du réseau social, il faut que ça passe par les mobiles.
Exactement, sinon on ne s'en sert pas. Là, c'est pas
même que j'aurais préféré quasiment que ça sorte en même temps. T'sais, j'aurais été plus vite intégrée.
Ben, peut-être qu'ils essayaient de le faire, mais avec Apple qui a une semaine de plus, une semaine de moins.
Ouais, c'est ça. Eux autres, la différence.
Parce que pour Android, était là au démarrage.
Directement. Ouais, c'est
peut-être qu'ils voulaient vendre leur téléphone aussi.
Je pense pas que c'est malicieux de leur part. D'après moi, c'est vraiment. On peut pas contrôler. Tu sais, l'App Store, il y a des histoires d'horreur qui sortent régulièrement sur des applications qui prennent des mois, d'autres le lendemain. Puis d'après moi, c'est. Parce qu'ils pouvaient pas non plus essayer d'être trop public. Puis d'essayer de faire sortir l'application juste un peu avant. Il y avait une zone critique, là, le bêta, les gens, les invitations.
Il y avait tellement de choses à gérer.
Tu
ne
peux pas ouvrir toutes les soupapes.
Non,
puis...
C'est ça. Parce que sinon, il y aurait eu des failles à quelque part, j'ai l'impression. Merci, Alexandra.
D'accord.
On s'écrira dans notre cercle d'amis Google. Alors, Steve.
Allô.
Tu commences par quoi?
Commencez par mon citron, s'il vous plaît. Hey, on joue ça à Mario 2 après.
Ah, j'ai le goût, moi.
Ouais, c'est bon. Bon, mon citron. Ok, moi, premièrement, mes citrons orange, c'est très personnel, donc.
C'est ça.
Ok, voici pour mon citron. Je veux chialer contre ma TV, le fabricant, les fabricants d'électronique en général. Bon, j'ai une grosse TV à projection, donc on sait tous que c'est pas très récent. Ça fait 4 ans que je l'ai.
Bertha.
C'est une grosse Bertha. Mm-hmm. Ok. Et puis. Soudainement, il y a un port HDMI derrière et puis évidemment, moi je dépends du HD avec mon récepteur satellite HD, mon PlayStation 3, ma Wii. Ah non, ben non.
ta Wii U peut-être?
On verra, mais comme c'est là, mon port HDMI sur la télé, le seul que j'ai, m'a lâché. Donc j'essaye de trouver des façons de régler les choses. J'appelle chez Hitachi. Oups, je les ai-tu nommés? Bon, j'appelle chez Hitachi. J'essaie d'avoir un service, voir est-ce que c'est remplaçable, est-ce que... Bon, premièrement, on me dit que la pièce est discontinuée et que la pièce en question, c'est le board au complet de la télévision.
En fait, la plupart des gens qui ont des problèmes d'HDMI, c'est même pas lié à la technologie comme telle du port, mais plutôt à la protection. Puis des histoires d'horreur entre les consoles de jeux qui reconnaissent pas la télé, que le lecteur Blu-ray voit pas, puis ça, c'est toute de la merde qu'on se tape en tant que consommateur, juste parce que toutes ces compagnies de films, c'est uniquement les films, c'est juste eux, là, puis c'est Hollywood, les petits gentils, qui décident de forcer les manufacturiers à mettre des protections à un point tel qu'on a des appareils qui se mettent à plus fonctionner A avec B. Puis...
Exactement, puis c'était pas mes premiers déboires avec la HDMI, là. J'ai je sais pas combien de games de NHL que j'ai perdu en ligne parce que soudainement mon image lâchait. Bon. Et puis, en tout cas, ben bref, c'est ce que j'ai à chialer. Si vous nous faites des produits qu'on va dépenser de l'argent dessus, ayez du soutien technique, ayez du support, pensez intelligemment. Faites pas des produits jetables, surtout pas à la grosseur qu'ils ont. Je sais même pas dans quel
moment je vais pour jeter.
Ben, je pourrais peut-être me louer une scie mécanique, on verra. Et puis, ça, c'était mon citron. Et là, je veux...
plus positif.
Mon orange. mon orange, c'est très simple. C'est un site internet que j'utilise sur une base horaire. En fait, vraiment, c'est pratiquement à la demi-heure. Dès que j'ai un temps libre, je perds totalement mon temps dessus, mais écoutez, c'est reddit.com.
Ah oui.
C'est officiel que vous le
connaissez. Le passe-temps par excellence.
Hein? Ah oui, oui, voilà. C'est disponible à la maison et au travail. Alors, et puis Reddit, en fait, ce que c'est vraiment c'est un fil d'actualité mais qui est classé, qui est personnalisé selon les sujets qui vous intéressent. Donc, vous créez un compte sur Reddit. Bon, moi, j'aime les gadgets, la techno. J'aime l'humour, j'aime la science-fiction, j'aime les cartoons. En tout cas, je me crée un accueil qui contient ces catégories-là. Et puis, quand je me log, en fait, quand j'arrive sur reddit.com, la front page, la page d'accueil, c'est-à-dire, contient les informations qui m'intéressent. Donc, des liens qui sont postés par la communauté Reddit, qui sont commentés par la communauté Reddit. Et puis, c'est vraiment bien fait. C'est une communauté vraiment... large, intergalactique.
Oh,
non, mais j'aime vraiment ça. Et puis, le feedback que j'ai eu à date sur les quelques petits articles que j'ai postés, mais c'est vraiment bien. T'sais, c'est une communauté quand même intelligente. Et puis, je puise beaucoup de mes informations là-dessus pour les petits articles que je vais écrire sur Geekbécois. Et puis, pour des tweets aussi. J'ai bien du stock que j'aime partager là-dessus. Juste un avertissement, si vous commencez Reddit, faites ce que vous avez à faire d'important avant.
C'est ça, oui, ça c'est la meilleure chose.
Ça fait 3 semaines que je me suis pas lavé, puis là tout le monde dans le salon s'éloigne tranquillement. Alors voilà, c'était mon
puis rapidement, il y a aussi une application iPhone que moi j'aime beaucoup pour Reddit, c'est Alien Blue. Il y a l'application Reddit, mais je trouve qu'il est moins bien fait que Alien Blue. Et depuis ce temps-là, je me lave pas moi non plus, ça va bien. Alors, c'est ce qui conclut nos oranges et nos citrons, et c'est ce qui conclut aussi le premier podcast de Geekbécois.
Merci à toute version 1.0.
Oui, 1.0, et ça va s'améliorer, et ça ne vous coûtera pas 30$, promis. Alors, j'aimerais remercier tous les gens qui étaient avec moi aujourd'hui, et merci, en passant aussi, il y en aura d'autres, parce que les autres chroniqueurs de Geekbécois pourront joindre à nous dans d'autres mois. Ce ne sera pas toujours les mêmes, c'est ce qui va être intéressant aussi, de discuter d'autres sujets. Des fois, il y en a qui ne pourront pas venir, mais on en a d'autres. on est comme ça.
Donc, on a une réserve de geeks.
On a une réserve de geeks. Alors, merci beaucoup, Jean-François.
Merci.
Très intéressant, on se tient au courant. Puis Alice,
je te prête ça.
Oui, aussi. Tu vois, moi, je parle. Moi, je suis comme. Hein? Merci, Alexandra.
Merci à toi.
Merci, des bonnes émissions qui s'en viennent. Merci, Geocaching. Je pense qu'on va tous s'y intéresser aussi, Steve. Merci beaucoup.
Oui, mais suivez-moi pas parce que je les trouve pas souvent.
OK, on ne te suivra pas, promis.
Merci, c'était le fun.
Et merci beaucoup à Laurent.
Ben, merci beaucoup à toi aussi.
On suit l'évolution de Google Plus. On va voir qu'est-ce qui se passe avec ça.
Oui, je mets tout dans mes cercles.
Alors, merci beaucoup tout le monde et j'espère que vous avez apprécié l'émission et que vous nous suivrez le mois prochain parce que oui, il y en aura d'autres et d'autres et d'autres encore. Alors, merci beaucoup et à la prochaine!
Bye.
Pour tout commentaire, question ou suggestion concernant l'émission ou pour communiquer avec l'équipe de Geekbécois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook ou sur Twitter à En Commercial Geekbécois ou sur le site internet au www.geekbécois.com.
Bonjour et bien, bon, Phil, ça l'a fait.
Salut.
Et puis ensemble, je pense qu'on va vous donner une bonne émission assez complète. C'est ça. Ok, je pensais que j'avais fait vraiment... Bon, ben, je vais être correct, là.
Non, c'est excitant.
C'est ça. Bonjour et bienvenue... Oh,
la dernière fois, vous allez voir, ça a été carré.
Je m'appelle Lynn Bou et je vais être votre animatrice pour... J'ai vu ça. Ok. Ah ouais, regarde. Bonjour et bienvenue à... c'est vrai, là. Bon.
Fait que là, on a 30 secondes de fait. Il en reste 40 minutes. Ça a presque pas été long.
Trop loin.
En fait, je pense...